VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, les États-Unis confirment la mort d'Abdelmalek Troukdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué par les forces françaises dans le nord du Mali. Au Malawi, le président Peter Mutharika a nommé une nouvelle commission électorale avant la présidentielle de juillet. Le procès de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diack, s'est ouvert à Paris avec 4 co-accusés. Pandémie du coronavirus, la tendance au déconfinement se confirme. Les funérailles de George Floyd se déroulent aujourd'hui et demain à Houston. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. La ministre des Forces armées françaises, Florence Parly, a annoncé vendredi la mort d'Abdelmalek Troukdel, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, lors d'une opération dans le nord du Mali. Le commandement américain pour l'Afrique a confirmé la mort de Troukdel, qualifié d'ingénieur de l'expansion de l'idéologie d'ACMI à travers le Sahel et le Maghreb, et plus récemment en Afrique de l'Ouest. Selon le contre-amiral Heidi Berg, directeur du renseignement du commandement américain pour l'Afrique, qui dit avoir fourni du renseignement. Le leadership et les capacités de Troukdel ont permis aux organisations djihadistes basées au Mali d'augmenter considérablement l'instabilité au Sahel, a déclaré le contre-amiral Berg. Ce n'est pas seulement une victoire pour la France et les États-Unis ou même les nations du Sahel, c'est une victoire pour chaque nation qui s'oppose au terrorisme et à la violence, a déclaré le major-général Dagvin Anderson, commandant des opérations spéciales pour l'Afrique. Au Mali, des responsables ouest-africains et de l'Union africaine, ainsi que des acteurs onusiens, ont rencontré à Bamako Mamoud Diko, l'influent imam malien, un des organisateurs d'une grande manifestation vendredi pour réclamer la démission du chef de l'État. Autrefois proche du président Ibeka, l'imam Diko, partisan d'un islam rigoureux, récemment entré en politique, est devenu une critique virulente du pouvoir. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a nommé hier les nouveaux membres de la commission électorale avant un nouveau scrutin présidentiel. Nathalie Barge.
Le président Peter Mutharika a nommé à la tête de la commission Chifundo Kachalé un juge de la Cour suprême ainsi que 6 nouveaux membres. Maurice Muntali, porte-parole du principal parti d'opposition MCP, a salué la désignation du juge Kachalé, mais a contesté la nouvelle commission, affirmant que le président n'a pas pris en compte les noms soumis par l'opposition. En février, la Cour constitutionnelle avait ordonné la tenue d'une nouvelle élection présidentielle dans les 150 jours suivant l'annulation de la réélection du président Mutharika. Les députés doivent se réunir pour décider de la date exacte de l'élection qui a été proposée pour le 23 juin.
En République démocratique du Congo, la vaccination pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola a débuté dans le nord-ouest du pays où la 11e épidémie déclarée il y a une semaine a déjà fait 6 morts pour 9 cas confirmés et 3 probables. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a affirmé avoir commandé 8000 doses supplémentaires de vaccins contre le virus Ebola. Au Kenya, environ 200 personnes ont manifesté aujourd'hui dans le bidonville de Matare à Nairobi pour protester contre les violences policières. La police kenyane a été impliquée dans la mort de 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars, selon l'autorité indépendante de contrôle de la police qui a reçu 87 plaintes. En avril, Human Rights Watch avait accusé la police d'imposer le couvre-feu de manière chaotique et violente, parfois en fouettant, en battant ou en utilisant des gaz lacrymogènes pour forcer les gens à quitter les rues. En Afrique du Sud, où plus d'une centaine de partisans de la gauche radicale se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria pour dénoncer le racisme et les violences policières. Les protestataires, emmenés par Julius Malema, président du Parti des combattants pour la liberté économique. Julius Malema a profité de l'événement pour critiquer le président Cyril Ramaphosa et l'accuse d'avoir allégé le confinement pour satisfaire, selon lui, l'économie blanche du pays. Le procès de l'ancien patron mondial de l'athlétisme, Lamine Diack, a démarré lundi à Paris. Il est jugé avec son fils et quatre acteurs présumés d'un pacte de corruption pour protéger des athlètes russes dopés. Eric Manirakiza.
Lamine Diack encourt jusqu'à 10 ans de prison. Il est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Selon le parquet, il a mis en place une véritable organisation criminelle qui aurait permis de ralentir à partir de fin 2011 des procédures disciplinaires contre des athlètes russes suspects de dopage à l'EPO. Il doit être interrogé sur les faits mercredi. À ses côtés comparaissent l'un de ses anciens conseillers, l'avocat Habib Cissé, et l'ancien responsable du service antidopage de l'IAF, Gabriel Dolé. Son fils, Papa Massata Diack, ancien puissant conseiller marketing, est le grand absent du procès. Deux autres acteurs manquent à l'appel. L'ancien président de la Fédération russe d'athlétisme, Valentin Balkanichev, et l'ancien entraîneur national des courses de fond, Alexei Melnikov, visés comme Papa Massata Diack par des mandats d'arrêt internationaux. Lamine Diack est aussi jugé pour avoir permis à son fils de s'approprier plusieurs millions d'euros dans les négociations avec les sponsors, soit en imposant ses sociétés comme intermédiaires, soit en s'attribuant des commissions exorbitantes. La Fédération internationale d'athlétisme partie civile réclame 24,6 millions d'euros de dommages et intérêts aux prévenus sur un préjudice total qu'elle estime à 41 millions d'euros.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les funérailles de George Floyd, mort le 25 mai sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis, vont se dérouler aujourd'hui et demain à Houston, la ville qu'il a vu grandir. Sa mort a suscité un vif débat sur la réforme de la police. Abdourahmane Dia.
Le conseil municipal de Minneapolis s'est engagé à réformer profondément la police alors que le policier blanc inculpé du meurtre de George Floyd doit comparaître aujourd'hui pour la première fois devant la justice. La police de Minneapolis pourrait donc disparaître dans sa forme actuelle. C'est en tout cas le vœu émis par 9 des 13 membres du conseil municipal. Toutefois, une conseillère a précisé que l'idée de ne pas avoir de police n'est certainement pas un projet à court terme. La mort de Floyd a relancé le débat sur la réforme des services de sécurité pour mettre fin aux brutalités policières. Mais les syndicats de policiers estiment que des coupes budgétaires pourraient avoir un effet négatif sur leur travail consistant à protéger les citoyens. Le policier Derek Chauvin a dans un premier temps été inculpé d'homicide involontaire, mais ce chef d'inculpation a été requalifié le 4 juin en meurtre passible de 40 ans de prison. Les trois policiers qui l'accompagnaient, qui n'avaient pas été poursuivis dans l'immédiat, ont finalement été inculpés pour complicité et placés en détention. Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end aux États-Unis et à travers la planète contre le racisme.
Plus de 7 millions d'infections au coronavirus et plus de 400 000 morts dans le monde. La tendance au déconfinement et à la réouverture se confirme dans de nombreux pays pour faire repartir des économies durement éprouvées. Le point avec Nani Talani.
En Algérie, une partie des commerces a commencé à rouvrir hier, mais le confinement partiel reste en vigueur dans la majeure partie du pays jusqu'au 13 juin. En Afrique du Sud, les églises, mosquées et synagogues sont autorisées à rouvrir cette semaine. En Irlande et en Espagne, notamment à Madrid et Barcelone, les commerces peuvent rouvrir mais à capacité réduite. Au Royaume-Uni, toute personne, résident ou pas, arrivant dans le pays à partir de ce lundi, doit observer une quarantaine de 14 jours. Les Russes pourront quitter le pays pour des raisons médicales, professionnelles ou liées aux études. Les ressortissants étrangers pourront venir se faire soigner en Russie ou s'ils doivent s'occuper de leurs proches. La Pologne, qui a aussi entamé son déconfinement, a enregistré durant le week-end une montée en flèche des infections. Aux États-Unis cette semaine, New York autorisera les commerces de détail, les entreprises du bâtiment et les usines à reprendre le travail. L'Inde, où l'épidémie reste virulente, autorise la réouverture de ses centres commerciaux et de ses lieux de culte. Le Pakistan a dépassé le cap des 100 000 malades et les hôpitaux commencent à être débordés.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
L'Algérie a enregistré un déficit commercial de 1,5 milliard de dollars durant le premier trimestre, soit une hausse de 26,21% par rapport à l'an dernier. Exportateur d'hydrocarbures, dont il tire ses principaux revenus, l'Algérie a subi de plein fouet la chute des prix de l'or noir. Le taux de couverture des importations par les exportations est passé à 83,50% contre 89,48% en 2019. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés sont convenus de prolonger en juillet la réduction historique de la production qu'ils observent depuis le 1er mai. Le but de l'accord est d'assurer une stabilité sur le marché pétrolier entre l'offre et la demande. L'OPEP et ses partenaires s'étaient engagés en avril à réduire leur production de 9,7 millions de barils par jour pour les mois de mai et juin et à 7,7 millions de barils par jour à compter du 1er juillet. Pour terminer, l'Organisation mondiale du commerce lance ce lundi la procédure de désignation de son directeur général, censé remplacer le Brésilien Roberto Azevedo, qui va quitter son poste à la fin d'août, un an plus tôt que prévu. Les candidats disposent d'un mois pour déposer leur dossier. L'Afrique espérait que le poste allait lui revenir pour la première fois grâce au Nigérian Yonov Frédéric Aga, un des vice-directeurs de l'OMC. Mais le Nigeria a désigné une autre candidate. Toutefois, l'Union africaine compte trouver un candidat unique.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Direction l'Algérie pour commencer. Fahd Halfaya, directeur général de l'entente Sétif et un agent de joueur, Nassim Sadawi, ont été placés en détention préventive pour des soupçons de matchs arrangés. M. Sadawi a été inculpé d'atteinte à la liberté d'autrui, diffamation et enregistrement d'appels téléphoniques sans consentement, alors que le patron de l'entente Sétif est poursuivi pour marchandage de matchs. Cette affaire a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement sonore impliquant les deux hommes. Le directeur général de l'entente sportive de Sétif conteste l'authenticité de cet enregistrement, alors que M. Sadawi a affirmé, je cite, « ignorer qu'il était interdit d'enregistrer des conversations téléphoniques. Mon but était de me protéger et prouver mon innocence dans ce marchandage de matchs », a-t-il plaidé lors d'un match entre le DRB Tadjenanais et l'entente Sétif le 12 mai 2018. Un opérateur a signalé de nombreux paris atypiques passés sur un score exact avec des mises importantes par rapport aux mises habituelles. La rencontre s'est soldée par une victoire 3-2 du DRB Tadjenanais contre l'entente Sétif. Sur les 5 buts, 3 ont été inscrits sur pénalty. En Europe, l'audience durant laquelle le club anglais du Manchester City va contester son exclusion pour 2 ans des Coupes d'Europe s'est ouverte devant le tribunal arbitral du sport par visioconférence. L'appel de City est dirigé contre la décision de la chambre de jugement de la commission de contrôle financier des clubs en date du 14 février 2020. Par cette décision, le gendarme financier de l'UEFA a exclu le champion d'Angleterre en titre pour les 2 prochaines saisons de Coupe d'Europe, assortissant sa sanction d'une amende de 30 millions d'euros. Manchester City est épinglé pour avoir surévalué les revenus issus des contrats de sponsoring dans ses comptes portant sur la période 2012-2016. Handball, la Confédération africaine de la discipline maintient 3 de ses compétitions pour cette année 2020. Le championnat d'Afrique des clubs champions hommes, dames, seniors, au Caire du 13 au 22 novembre, le championnat d'Afrique des nations juniors masculins à Casablanca au Maroc du 6 au 12 décembre et le 16e championnat d'Afrique des nations cadets masculins, toujours à Casablanca au Maroc, donc du 13 au 19 décembre 2020. Pourquoi avoir maintenu ces compétitions en dépit du coronavirus? Mamama Fadiga, directrice exécutive de cette instance, explique.
La Confédération africaine de handball a laissé le soin à la Fédération internationale de handball d'établir d'abord le calendrier de ces événements Et c'est par la suite que nous avons procédé à la programmation de nos activités.
Mamama Fadiga, directrice exécutive de la Confédération africaine de handball.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Mali, les discussions autour du renouvellement du mandat de la MINUSMA vont bon train. Certains Maliens pensent que le mandat de la MINUSMA doit être robuste. Le secrétaire général des Nations Unies recommande qu'elle soit maintenue comme telle sans coupe. Que pensent les citoyens de cette mission onusienne? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré.
Indépendamment du tiraillement entre Paris et Washington, les Maliens souhaitent un mandat robuste de la MINUSMA. Massiré Diop, journaliste au quotidien L'Indépendant.
C'est vrai, ce mandat robuste, nous l'avons tout le temps réclamé, nous l'avons tout le temps demandé. Mais jusqu'ici, les gens sont encore à leur faim. Parce que tout simplement, c'est une mission multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là tout simplement que pour le processus de paix, pour l'accord, pour la sécurité. Les domaines sont assez vastes et transversaux. Et moi, je pense que ça fausse des déjà le problème. C'est-à-dire qu'il y a un péché originel qui est là, un peu par rapport au déploiement de la MINUSMA. Et c'est ça qu'il faut essayer de corriger.
La MINUSMA est l'une des missions onusiennes les plus dotées en moyens. Mais le Malien moyen a un problème avec son mandat. Difficilement, il comprend que la MINUSMA soit là pour aider les maraîchers de Gao au lieu de combattre le terrorisme. Maître Chekoumar Konare, avocat.
Pour le Malien lambda, cette mission vient combattre ceux qui mettent l'insécurité au Mali. Mais ce n'est pas le cas. Mais son véritable mandat, c'est de venir s'interposer entre la CEMA, l'État malien et appliquer l'accord d'Alger. C'est ce que les Maliens n'avaient pas compris. Et aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent ça. La MINUSMA n'est pas venue pour combattre les terroristes ni les rebelles. Et c'est pourquoi les Maliens la critiquent. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas compris sa mission.
Pour l'ancien président de la Maison de la Presse du Mali, la MINUSMA mène beaucoup d'actions au-delà de la stabilisation du pays. Makan Koné.
La MINUSMA, ce que je viens de le dire, la MINUSMA, c'est une des missions qui a perdu le plus d'hommes à travers le monde. Donc, ils font la guerre. Voilà, ils nous sécurisent, ils nourrissent. Par exemple, les bâtons dont on parle, c'est la MINUSMA qui sécurise ces bâtons jusqu'à Kidal. C'est la MINUSMA qui les nourrit, c'est la MINUSMA qui les a ravitaillés en 3 mois d'alimentation. Pour vous dire, la MINUSMA fait même plus que son rôle. Il faut tout faire d'abord pour tenir tête aux États-Unis par rapport au maintien de la MINUSMA et au maintien de son patron.
Le renouvellement du mandat de la MINUSMA coïncide avec les remplacements de l'actuel patron de la MINUSMA. Selon le journaliste Alexis Calambri, Anadif peut rester encore.
Au moins avec Anadif, on a vu à la limite une réconciliation de la MINUSMA avec les Maliens parce qu'il n'est pas étranger au milieu. Mais si vous amenez des Occidentaux ou d'autres, ça va créer d'abord. S'ils parviennent à s'adapter, il leur faut un temps d'adaptation. S'ils ne parviennent pas, ils viennent déjà avec une école de pensée, des clichés dans lesquels ils veulent caser et ça va créer des problèmes.
Les discussions sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA sont en cours et les Maliens suivent de près. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24. Cameroun, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la multiplication des attaques contre les travailleurs humanitaires en zone anglophone. Cette situation entrave l'acheminement de l'aide humanitaire à 1,7 million de personnes dans ces deux régions. Les groupes séparatistes armés et les forces de sécurité camerounaises sont pointés du doigt. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
Selon la coordination humanitaire des Nations Unies au Cameroun, les travailleurs humanitaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont victimes du harcèlement, de bastonnades, d'attaques, d'enlèvements et d'extorsions. Depuis avril dernier, affirme l'ONU, des employés de 6 agences humanitaires ont été victimes d'enlèvements ou détenus illégalement dans ces régions. Des attaques que l'ONU attribue au groupe armé non étatique. James Larke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, lors d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève.
Les motifs derrière des kidnappings sont financiers. Les éléments armés ont également utilisé des engins explosifs improvisés dans des zones à forte population et bloqué les routes et le transport entre les villes pendant plusieurs jours.
Conséquence, l'aide humanitaire sur le terrain a dû être diminuée, également à cause des entraves des forces de défense camerounaises à l'action humanitaire. James Larque, du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
Selon certains rapports, des forces de sécurité camerounaises ont aussi retardé les mouvements des marchandises humanitaires. Toutes ces actions limitent l'accès aux personnes que nous essayons d'aider.
L'armée camerounaise n'a pas encore réagi à cette dénonciation. Mais le gouvernement s'est souvent montré critique à l'endroit des humanitaires travaillant en zone anglophone, notamment pour le cas précis du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale.
Tous les rapports de nos activités remis à la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun n'ont jamais été publiés. Bien au contraire, nos données sont contestées et les chiffres erronés publiés par des ONG aux ordres font le tour du monde. Il faut changer cette façon de faire.
Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les bandes armées interdisent également aux populations de sortir certains jours. Raoul Sumo Tayo est chercheur en défense et sécurité. Pour lui, l'armée camerounaise perd progressivement le monopole de la violence légitime dans ces deux régions.
Les régions du nord-ouest et du sud-ouest deviennent des zones avec des acteurs. Donc vous avez des insurgés qui discutent à l'État camerounais non seulement le monopole de l'usage de la violence légitime, mais également le monopole fiscal, qui sont tous deux des attributs de la souveraineté d'un État.
Des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis 3 ans. Ils réclament la sécession de cette partie du Cameroun. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 2,3 millions de personnes ont besoin de nourriture, d'abri, de produits non alimentaires et de protection en raison de cette crise. Yaoundé, Emmanuel Jeunetap, VOA Afrique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, le pouvoir malien sous pression. Des milliers de manifestants ont déferlé dans les rues de Bamako à l'appel de l'influent imam Mahmoud Diko la semaine dernière pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces manifestations se tiennent dans un contexte sécuritaire alarmant dans le centre du pays, mais aussi en pleine crise économique et sociale. Nous ferons le point sur la situation politique et sécuritaire au Mali avec nos invités ce jeudi 11 juin 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
C'est ce lundi 8 juin que les élèves des classes d'examen reprennent le chemin de l'école au Togo. Dans ce contexte de crise sanitaire, cette reprise des cours doit se faire dans des conditions précises pour aider les élèves et le corps enseignant à respecter les gestes barrières. Des masques et du gel détergent sont offerts aux établissements scolaires. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kailosson.
Pour une meilleure protection face à la pandémie de COVID-19, tous les élèves et le corps enseignant doivent au moins être munis d'un masque, même si le port de masque n'est pas obligatoire au Togo. Le fait que les acteurs du système éducatif n'en portent pas peut constituer un facteur favorisant la propagation du virus à l'heure de la reprise des cours. C'est cette idée qui a conduit les responsables du bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine bâtir à sillonner quelques établissements scolaires. Ils y apportent des masques que le parti produit lui-même et des détergents liquides. Fiacre Atou, secrétaire général adjoint de bâtir.
La reprise des cours est imminente, donc nous avons jugé utile de venir en appui au corps enseignant en leur offrant des masques et du détergent pour qu'ils puissent eux-mêmes d'abord respecter les règles barrières en portant les bavettes et en se lavant les mains. Et nous ne pouvons pas protéger les enseignants et laisser les élèves. Donc nous devons penser venir également en appui à nos petits frères qui sont en classe d'examen et qui vont reprendre les cours.
Près de 200 000 masques sont ainsi distribués. Le directeur du collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle, agréablement surpris, dit considérer dans ce contexte le masque comme un matériel nécessaire pour la reprise. Théophile Dika.
C'était une surprise. Nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée et que le matériel cassiné est venu pour nos élèves. Franchement, c'est une réponse à des questions que nous nous posons.
À l'annonce de la reprise des cours, au niveau de chaque établissement scolaire, des dispositions sont prises pour faire respecter les gestes barrières, notamment la distanciation physique. Joseph Kodjo-Assafo, directeur du CEG Kekaveli à Lomé.
Nous sommes en train de préparer la rentrée pour que tout se fasse dans le respect des mesures barrières. On a déjà fait la répartition des élèves par classe et donc nous avons mis environ 30 élèves par classe afin qu'il y ait la distanciation d'un mètre d'un élève à un autre. Et donc, on devra faire recours à tous les professeurs de l'établissement, qu'ils interviennent en troisième ou pas, pour que les 11 classes puissent suivre correctement les cours.
Dans les établissements scolaires visités, les responsables déplorent l'absence de dispositifs de lavage de mains. Avis est donc lancé. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM. Dopage et corruption dans l'athlétisme. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, a comparu aujourd'hui au tribunal de Paris en France pour être jugé avec son fils, Papa Massata Diack, et 4 co-accusés de corruption pour protéger des athlètes russes dopés contre des pots de vin. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Paris Bruno Aoyo, journaliste et spécialiste du sport africain.
Alors, il est reproché à Lamine Diack en tant qu'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, ainsi qu'à son fils et 4 autres acteurs présumés, d'être responsable d'un pacte de corruption pour protéger des athlètes russes. L'IAF demande jusqu'à 24 millions de dommages et intérêts pour les dégâts qui auraient été occasionnés à son image.
Dans cette même affaire de corruption institutionnalisée, la Russie a d'abord été suspendue par le Comité international olympique en 2015, par aussi l'Agence mondiale antidopage. L'IAF aussi avait banni la Russie. Est-ce que ce ping-pong entre l'IAF, le CIO et l'AMA va profiter à Lamine Diack dans ce procès?
Honnêtement, je ne pense pas parce que les charges requises à son nom sont très lourdes. Ça va être très compliqué pour M. Diack. Après, en plus, le fait que beaucoup de gens aient très mal digéré qui s'apparente à du dopage organisé en Russie va jouer. Donc je pense que ça ne va pas malheureusement l'aider. Il a été lâché par tous ses adjoints et tous ceux qui ont gouverné avec lui. Je pense que pour M. Diack, malheureusement, ça va être très compliqué.
On le sait, Lamine Diack a dirigé la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015. Il a réussi à élever les recettes de télévision et de sponsoring jusqu'à 1 milliard d'euros pour l'I2AF. Est-ce que finalement, ce procès pour corruption ne vient pas ternir tout cela?
Forcément, ça va ternir son bilan. Et c'est pour ça que on n'a jamais tout à fait les coudées franches quand on est dans ce genre d'organisation. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens, de vice-présidents, de membres de comités décisionnaires qui gravitent autour, mais on n'a jamais les coudées franches. Donc, il faut toujours un maximum de précautions quand on prend des décisions. Et on l'a vu dans plus d'autres instances. À partir du moment où vous retrouvez en difficulté ou qu'une décision paraît douteuse, c'est tout votre honneur et tout votre parcours qui est remis en question. Donc, les conclusions du procès nous le diront, mais c'est clair que Lamine Diack, malheureusement, son nom dans l'histoire de l'athlétisme international est désormais sali.
On le sait, Lamine Diack n'est pas poursuivi seul dans cette affaire. Il y a également son fils, Papa Massata Diack, ancien conseiller marketing de l'I2AF. Il y a également Habib Cissé, avocat de Lamine Diack, tous impliqués, présumés dans cette affaire. Est-ce que cela finalement ne va pas porter un coup à la gestion de l'Afrique, on va dire, de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015? On le rappelle, c'était la première fois qu'une personne non européenne dirige cette institution.
Ils sont tous présumés innocents. Après, à partir du moment où les Russes sont impliqués, comme les Américains ont fait au niveau de la FIFA pour le football en tentant de reprendre les mains, je pense que les Américains seront pas très loin. Après, au niveau de l'image, c'est sûr que pour l'IAF, c'est catastrophique.
Bruno Aoyo, journaliste et spécialiste du sport africain, il était joint à Paris. fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram bien sûr.